commencé donc avec vous, Julie.
Oui.
Pas encore eu la parole. Donc, vous êtes responsable du Maker Lab ici au JAD, du coup, qui accueille à la fois les résidents du JAD, mais aussi le public extérieur. Et donc, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots, du coup, le Maker Lab et puis un peu les usages et les pratiques que vous voyez passer
Ouais. Donc, pour ceux qui... On descendra après pour le voir, mais du coup, le Maker Lab, c'est l'atelier partagé, le seul atelier partagé, parce que du coup, la complexité du JAD, c'est que voilà, Elena ou Loan ont chacun leur atelier privé, et au centre, à côté de l'espace où on a déjeuné, on a cet atelier qui est ouvert et qui accueille tous les publics, qui est quand même principalement du coup à destination des occupants, où ils vont avoir un accès qui est du coup exclusif toutes les matinées de la semaine. Et moi, je vais travailler avec eux sur de l'accompagnement de projets aussi large que ce que je puisse couvrir. Après, si nécessaire, intervenir d'autres personnes pour combler mes petites lacunes. Peut-être pour la précision, moi, je viens d'artisanat à la base. J'ai fait des maquettes d'architecture pendant 6 ans. Donc, la relation avec l'outil est encore différente aussi pour la maquette d'architecture, parce que par exemple moi, sans machine de découpe de gravure laser, je n'aurais jamais fait ce métier-là. Enfin, j'aurais trouvé que c'était un métier beaucoup trop ingrat pour être fait. Et c'est vrai, c'est horrible. Hein. Je n'aurais jamais fait ça. Mais par contre, c'est un peu la même idée. Quand on est maquettiste, on met son savoir-faire au service des idées des autres pour créer quelque chose de physique. Et dans le maquette là, moi, mon intérêt, il est là, c'est d'accompagner au maximum les projets des créateurs. Et du coup, l'équipement qui se trouve en bas, c'est un équipement qui va être généraliste, qui est centré autour de 3 pôles, qui ont été constitués au fur et à mesure de la croissance du Maker Lab, de manière à essayer de faire les choses intelligemment et bien. Quoi. Donc on a un pôle bois, un pôle numérique avec un laser, une fraiseuse, une brodeuse, des imprimantes 3D, et un petit pôle textile qui est le plus récent, qui n'est pas très développé encore. Il faut comprendre que cet équipement-là, il vient en complément de l'équipement spécialisé que chaque créateur va avoir dans son atelier. L'idée, c'est qu'il puisse trouver de la ressource, donc autant humaine dans l'accompagnement que je peux avoir, mais aussi la ressource technique avec du coup ces machines et outils qui se trouvent en bas. Ils vont avoir une utilisation qui va être très très différente en fonction de chacun de leur travail. Il y en a pour qui c'est presque de la découverte, parce que avec leur étant donné leur matière de prédilection, en fait ils n'ont pas du tout besoin des outils qui se trouvent sur place, parce que c'est très très spécialisé. Je pense par exemple à Anne qui est céramiste et qui du coup a priori n'a pas vraiment besoin du Maker Lab parce qu'elle a sa terre et son four, et qui du coup est dans une découverte, alors sans jugement parce que je trouve ça très beau, presque naïve, des équipements qu'il y a en bas. Et où ça fait maintenant 2 ans qu'elle est là. La première année, on n'a pas eu à part des contacts humains super, mais on n'a pas eu vraiment de contact au Maker Lab. Et là, ça y est, parce qu'elle a rencontré des difficultés et des échecs, entre guillemets, enfin, en tout cas des imprévus, des aléas dans sa production, elle vient me voir pour voir si en bas, avec d'autres outils, on peut réussir à rattraper quelque chose, à repercer, enfin, en tout cas, à déplacer sa pratique sur autre chose que ce qu'elle fait habituellement. Donc ça, c'est un cas d'étude où moi, je fais plus voilà, de la sensibilisation, de l'accompagnement, presque de la stimulation, enfin, en montrant ce qui peut exister et ce qu'on pourrait faire, avec le référentiel de projet que moi, je peux avoir. Et après, il y a d'autres personnes pour qui le Maker Lab va presque agir comme une sorte de levier économique, où en fait, je vais énormément travailler avec les stagiaires de ces occupants-là. Sur de la production qui va être la production jusqu'à moyenne échelle, on va dire à peu près 20, enfin petite moyenne échelle pour le Maker Lab, mais 20 exemplaires à peu près, où du coup je forme les stagiaires et je les fais monter en compétences sur du coup de la création de fichiers numériques, de la prise en main des machines, de la conception de chaînes de fabrication. Et du coup, en fait, ils vont devenir les producteurs des créateurs. Et ça va permettre aux occupants de passer d'un statut de créateur isolé qui répond aux appels d'offres, qui conçoit, qui produit, qui vend, qui fait sa communication, à un créateur qui peut se reconcentrer aussi sur sa création parce que la production a été, a été délocalisé en bas du bâtiment, en fait. Et je pense que c'est une chance intéressante qu'il leur est offerte dans leur parcours de Jade. Ils ne sont pas tous obligés, enfin, c'est des chemins de production qu'on prend et il y a des créateurs qui souhaiteront contrôler l'entièreté de leur chaîne de production, mais je pense que pour certains, c'est un moment intéressant dans leur parcours qu'ils n'auraient peut-être pas pu avoir au tout début qui est intéressant de pouvoir leur proposer. Donc ça, c'est pour la partie avec les créateurs. Et ensuite, après, du coup, tous les après-midi, c'est un endroit qui a pour vocation de faire de la transmission et de la sensibilisation aussi pour tous les publics extérieurs. Donc soit on est aussi ressource pour... d'autres professionnels du territoire, donc c'est quelque chose qui commence à se mettre en pratique petit à petit, tant qu'on soit bien connu. Mais sinon, on accueille effectivement beaucoup de scolaires, ça revient à tes préoccupations, Elena, où on n'est pas dans un milieu si urbain, mais quand même, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais été dans des ateliers, et du coup, je fais beaucoup de visites ludiques, principalement avec des collégiens, parce que du coup, c'est la cible du département. Avec des jeux de questions-réponses, de devinettes, à quoi peuvent servir tous les outils qui sont présents autour de nous. Je monte des tests d'usinage entre la matière brute et la matière après qui est usinée. Et je pense que c'est une bonne pierre à poser dans l'édifice de l'éducation, quoi. Et ensuite, après, même un travail un peu différent qui est fait aussi avec le grand public, puisque du coup, on va... travailler plus sur des ateliers clés en main, où on remet le geste, la pratique créative accessible à tous en proposant des petits ateliers de découverte et de pratique créative. Là, typiquement, on a travaillé en accord avec avec ma collègue qui a la médiation, la programmation culturelle. Là, toute la semaine, on a un atelier sur le graphisme en bas. Qui a lieu avec des 6-12 ans, où on a du coup développé des jeux de graphisme et des outils, des extensions du corps pour voir ce qui se passe quand on remet son corps en mouvement dans la pratique, qu'on ferme les yeux, qu'on dessine de manière collaborative, individuelle, sous contrainte. On essaye de, avec le Maker Lab, du coup, de toucher tous les publics potentiels avec différents niveaux d'entrée et de lecture, etc. Je ne sais pas si c'est trop long ou aussi. Mais voilà, en gros.
Et du coup, Loane et Elena sont friands du Maker Lab à différents niveaux, pas forcément. Comment vous en parlez de ces outils du coup qui sont mis à disposition?
Parce que tu en parlais dans ta présentation.
Oui. Le Maker Lab m'était d'une grande aide plutôt en début d'année, je dirais la première année. Voir toutes ces machines, moi j'aime beaucoup les machines, ces machines qui sont neuves en plus, incroyable, une belle découpe laser, une belle CNC. Alors moi je suis vraiment novice aussi avec ces utilisations et puis avec, j'ai une petite expérience, mais heureusement que Julien est là pour nous accompagner. Alors j'ai eu l'occasion de me servir de la découpe laser pour plusieurs projets, donc ça a été aussi assez intéressant, notamment la découpe laser pour la découpe de cuir, pour la réalisation de trophées pour l'atelier des matières directement pour Chanel, puisque ma découpe laser à moi était un peu, comment dire, c'était quand elle voulait, quoi. Voilà. Donc la découpe laser Z était quand même plus performante. Et puis, c'est vrai que ça me donne des idées à chaque fois, la CNC, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec. Julie m'a aussi beaucoup aidé à entrevoir la reproductibilité de petites pièces qu'on pouvait usiner. Donc notamment avec sa vision qu'elle avait de la découpe laser et la vision que j'avais qui était totalement différente. Et aussi ta capacité justement à te projeter dans ce qu'on peut faire. Ton expérience, je trouve qu'elle est vraiment, super parce qu'on a tellement... Enfin, notre vision est tellement différente avec l'utilisation des machines et c'est incroyable. Et puis même, ça peut aussi nous donner des idées en fait de la manière de pouvoir construire notre propre parc machine à plus petite échelle avec une économie qui nous est propre bien évidemment, mais c'est aussi intéressant. Par exemple, je sais qu'il y a une scie angulaire, c'est ça,
à la... Une scie angulaire?
Scie angulaire,
je sais pas
laquelle. Celle qui a une espèce de grosse machine qui fait peur, là, une espèce de grosse lame. Non, scie circulaire. Scie circulaire. Eh bien, par exemple, pour découper une pièce, je me doute bien que cette machine-là peut être vachement pratique et assez utile. Mais ça me faisait assez peur parce que c'était vraiment imposant, c'était gros, puis il y avait des espèces de crans comme ça sur la lame. Et je me suis dit, mais cette machine-là, est-ce qu'elle n'existe pas dans un format un peu plus mignon, un peu plus petit, facile? Et donc, je me suis aperçu qu'il en existait, mais donc non, on se construit une propre culture machine aussi, grâce au Maker Lab. Et puis non, j'ai appris qu'il existait des ressources vachement intéressantes. Plein de fournisseurs m'avaient parlé d'une machine quasi immortelle, tu sais, qui faisait un peu trois trucs à la fois, t'avais en archi. Tu l'as ramené derrière ta propre machine.
Ah,
et tu m'as donné celle-là. Oui, celle-là, elle est incroyable. Mmh. Et donc voilà, on apprend pas mal de choses. Alors maintenant, je suis moins qu'avant quand même. Je suis beaucoup moins qu'avant, mais par contre, un exemple un peu naïf aussi, il fallait que je réaménage un peu mon atelier. Je ne savais plus me servir d'une perceuse. Je ne savais plus le terme de mèche, des choses comme ça. Et donc il y a la personne qui accompagne Juline qui fait, comment on appelle ça déjà, son année de...
En service civique.
Et c'est vrai que parfois ça permet de remettre les bases. Donc une chaîne, une fraise pour le bois, une mèche pour le bois, une mèche pour le métal, une serveuse, sa batterie. Ça paraît bête comme ça, mais quand on n'utilise pas ça au quotidien ou chez nous parce qu'on est à Paris et qu'on n'a pas forcément le besoin de bricoler, c'est bien pratique, ça remet des bases quand même. C'est assez intéressant.
Et en l'occurrence, tu étais au BDMMA ?
Au BDMMA, exactement. Donc il n'y avait pas du tout les mêmes fonds de notation, les mêmes moyens pour nous accompagner sur les machines et sur notre projet. Mais c'est vrai que quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on a une grosse production à notre échelle, on va être vraiment 30 pièces, et qu'on sait qu'on peut être accompagné par Maker Lab, on peut valider la commande et se dire « Ok, on peut la prendre, pas de souci. » On n'est pas obligé de faire appel à un prestataire externe. Ça, c'est vachement agréable, ce que je devais faire avant. Et de façon économique, c'est aussi un coût pour nous. Et là, c'est tellement flexible et c'est facile et on comprend. Et Juline nous rend les machines accessibles, parce qu'évidemment, on n'a pas tous le même niveau de compétences. Et ça, c'est quand même très agréable. Donc honnêtement, ça nous permet, d'un point de vue économique aussi, de pouvoir accéder les commandes. Et ça, c'est bien. Et on peut aussi avoir une extension de notre atelier vers le Maker Lab aussi.
C'est un outil d'accélération aussi.
Oui, bien sûr.
Ça ne substitue pas d'ailleurs au travail de création.
Non, c'est une belle extension. C'est une belle extension. Et puis d'ailleurs, la découpe laser, maintenant, je ne m'en sers même plus. Je vais vers un autre outil qui est plus simple, enfin, selon moi. Mais les allers-retours sont constants. Moi, c'est top. On adore le Maker Lab. J'en dirais jamais du mal, j'aime trop.
Moi, pour compléter, alors moi c'est un peu plus particulier parce que j'ai chez moi à mon domicile où je travaille également déjà un atelier bien équipé. Donc, ce que m'a apporté Juline et le Fab Lab, c'est d'identifier les besoins de formation que j'avais. Parce que j'ai apporté tous les équipements qu'il y a en bas chez moi. Ce qui va me manquer, c'est toute la compétence de dessin, de numérique, de 3D, enfin en tout cas tout ce qui me permettrait d'utiliser le laser, la CNC, etc. de façon fluide, et donc ça, il va falloir un moment que je prenne le temps de faire une formation, mais ça rend concret des débouchés possibles de cette formation, et donc ça fait sens d'arriver à le passer par chez moi un jour.
Et Julien, du coup, est-ce qu'il y a aussi des résidents, des personnes extérieures, pour qui, un peu comme Elena avec son aiguille, pour qui les machines, la découverte des machines peut être un point de départ aussi pour des créations, des choses qu'ils n'avaient pas imaginées au départ, mais en fait, en découvrant les possibilités offertes par ces machines-là, du coup, ça leur donne des idées, ça leur permet de peut-être imaginer des choses autrement. Est-ce que ça, c'est des cas de figure
Alors, le problème des machines numériques, c'est les prérequis qui sont derrière. Enfin, en fait, il faut savoir faire un fichier, enfin, comme le disait Elena. Donc, ça bloque quand même beaucoup de gens. Donc, souvent, les personnes qui viennent ont un projet déjà identifié. En tout cas, j'ai pas moins tant de personnes que ça qui venaient en n'ayant aucune connaissance, par pure curiosité.
Une fois qu'ils ont découvert comment ça fonctionne, etc., ça peut les amener vers autre chose que ce qu'ils avaient imaginé au départ.
En théorie, oui. Après, je ne vais pas mentir sur le fait qu'ici, on n'a pas eu l'exemple, vraiment de grands déplacements de pratique. Donc, c'est plus l'occasion pour tester des choses, mais c'est pas la découverte de la machine qui engendre. Enfin, c'est plus, tiens, j'ai envie de tester ça, donc je vais aller voir.
Par contre, tu vois, même si on ne devient pas un utilisateur régulier de la machine, moi j'ai besoin de savoir comment marche un outil pour travailler avec quelqu'un qui utilise cet outil. Je sais
utiliser faire de la soude brassier, j'ai pas envie d'en faire. Je préfère payer quelqu'un qui le fera mieux et qui fait ça régulièrement, mais j'ai besoin d'avoir essayé par moi-même pour savoir comment échanger de façon fluide et respectueuse aussi de sa pratique. Enfin, pour moi, c'est très important de,
pour se comprendre
le métier de l'autre. Après, on n'a pas vocation à faire tous les métiers, à aller sur tous les matériaux, à tout faire. Tu vois.
Non, mais t'as vachement raison, il y a quand même vachement de flexibilité par rapport à ça. Parce que quand on partira du JAD, on fera forcément appel à des prestataires externes. Et quand on n'a pas la connaissance de leur lexique, de leur vocabulaire, on perd vachement de temps, alors que là, on l'aura déjà acquis avec Juline.
Même entre vous.
Oui, même entre nous. Et du coup, on se placera déjà mieux en tant qu'acheteur, en tant que designer. Et on passera moins pour des mules. voilà. Non, mais ça fonctionne aussi comme ça, quoi. Comme ça, on sera moins à voir. Et peut-être que les devis, ils seront quand même plus réglo, parce que on saura que ça vaut pas ce prix-là. Le temps pour la découpe, c'est pas ce prix-là. Et donc ça, finalement, ça compte aussi dans la pratique, au final. Enfin,
bon,
oui.
Moi, je voudrais rebondir sur la question des machines, qui a été aussi abordée dans la présentation de Grégoire, qui nous a expliqué que c'est pas nécessairement la machine qui vient dévaloriser et dénaturer le personnel, c'est la perte du sens. De ce sens symbolique dont est si chargé l'objet fabriqué par les artisans. Et la notion du sens, elle est, je trouve, de plus en plus questionnée avec l'arrivée des outils numériques. Donc les outils qu'on a mentionnés aujourd'hui, l'IA générative, les mondes virtuels, les outils immersifs. Mais je vais te poser la question, elle est presque rhétorique et philosophique, même si je pense que maintenant ta réponse déjà, mais est-ce que, à ton avis, ces outils numériques, ces outils émergents et nouveaux, ils risquent de renforcer encore plus de cette crainte de perte de sens, et quelles devraient être les conditions réunies pour créer des conditions optimales pour l'utilisation de ces outils?
Moi, j'ai une théorie qui est basée sur l'observation. L'observation, je pense qu'on peut tous la partager. En fait, depuis l'industrialisation, la mécanisation de la transformation de la matière, qui est à peu près concomitante de la révolution industrielle, la main de l'artisan, puis de l'ouvrier, puis de l'opérateur s'est progressivement éloignée de la matière. La machine s'est interposée entre les deux, on a mis des carters, de la protection, tant mieux d'ailleurs, des ordinateurs, des cages, on parle de robots industriels, etc. Donc cette espèce de déconnexion de l'intention à la mise en œuvre, elle s'est accentuée en 200 ans, à un tel point que, d'ailleurs moi je me suis aperçu, que je connaissais plus de noms plastiques que de noms marbres. Bon, j'ai fait du design aussi, donc. Et je pense que cette déconnexion-là, on peut l'inverser. Et que la technologie, étonnamment, alors je suis un peu technophile, vous l'avez compris, elle peut nous permettre de rapprocher la main au niveau de la matière. Et je prends l'exemple de la Shaper Tool que vous avez, notamment au Maker Lab, qui est un outil dont je te laisserai nous parler plus en détail. Mais aujourd'hui, la technologie, notamment grâce à l'intelligence artificielle et à des outils, en fait, des senseurs qui permettent de favoriser la concomitance de la main humaine et de la lame qui fait peur à l'homme, permet en fait de revenir au toucher de la matière de manière un peu plus spontanée. Et j'aime bien cette image de toi, entre le robot et les cobos. Le robot, il est en cage, parce que c'est un peu comme King Kong, hein, il nous fait un peu peur. S'il tourne d'un coup sur lui-même, un, il ne te voit pas, deux, il te démonte. Et le cobo, il est à côté de toi. Parce qu'en fait, il te perçoit. Et là, il y a vraiment une question de cohabitation au sens sociétal du terme. C'est-à-dire que ce qui rend la machine dangereuse à tous les points de vue, et là, on revient à la strate plus philosophique, c'est qu'elle nie en partie notre humanité. Elle n'est pas là, une machine qui écrase la main de quelqu'un, elle ne dit pas « Oups, pardon !» Elle n'a pas fait exprès, elle n'a pas d'intentionnalité. Mais elle nie notre humanité dans le sens où elle n'a pas la possibilité d'en avoir conscience. Alors, ça ne veut pas dire que l'IA a conscience de notre humanité, mais à minima, l'IA fait la différence entre un bout de chair vivante et un jambon à découper. C'est une référence à Cruel Joke. Donc, ce que je veux dire, c'est que la technologie peut être une menace, et encore une fois, moi, j'aime bien la métaphore du couteau hein, qui peut servir à dorer des tartines ou à trucider ton voisin. Ça dépend de qui tient le manche. Voilà. Donc, c'est le même couteau, a priori. Enfin, c'est plus difficile de trucider quelqu'un avec un couteau à beurre qu'avec un couteau papillon, mais dans tous les cas, c'est vraiment la question qu'on doit se poser, c'est qui tient le manche et quelle est l'intention derrière la main qui tient le manche. Mais vraiment, là, on est en mesure de
forger ça. C'est d'autant plus prégnant que le couteau est devenu gigantesque, qui peut toucher à 10 pays de distance. Et que...
Évidemment, et le laser qui fait des coups de laser.
Ça n'avait pas réglé la question.
Donc là, il y a un vrai sujet, mais il y a une réalité dans laquelle on peut faire de la technologie un allié. Et d'ailleurs, ma conviction, c'est que si on ne s'empare pas de ces outils qui existent, qui sont en train de se développer, ceux qui vont s'en emparer vont définir notre rapport à ces outils et donc à la réalité qui permet de transformer. Mmh. Donc on a deux options, soit on dit alors on ne touche pas, vraiment c'est méchant les outils, la technologie c'est pas bien, et on en sera les victimes, parce que je pense que certains États qui verront leur intérêt n'attendront pas qu'on ait le débat de société pour savoir si oui ou non on veut utiliser l'IA dans l'artisanat. Soit on se dit bah, qu'est-ce qu'on en fait qui respecte nos valeurs et qui traduit notre façon d'être au monde. Et je suis plutôt de cette école-là, hein. Je vous parle en toute subjectivité. Mais en toute subjectivité, je suis convaincu d'avoir raison.
sauf que ça n'a plus de réponse nationale possible à apporter quasiment. Enfin, donc, c'est très compliqué de répondre au seul niveau des frontières.
Mais ça n'a jamais existé, ça. Ça existe, les frontières. Vous connaissez peut-être l'anecdote de Colbert qui a fait venir des guerriers de Murano dans des situations rocambolesques. Qui a fait la même chose avec des drapiers hollandais, c'est la route de la soie, tout ça. En fait, ça c'est un fantasme qui est colporté, et c'est une vision très actuelle. La circulation des savoir-faire, elle date du néolithique, probablement d'avant, je ne sais pas, mais en tout cas, les savoir-faire, j'ai lu dans un article, vite fait, en tant que touriste du sujet, qu'on retrouvait sur certains sites archéologiques des minerais qui avaient fait 3000 km.
Mais c'est très beau par le sud, déjà on a des matières premières qui font 3% du monde. Et pour remonter avec le programme que tu nous as présenté, du coup, vous arrivez à documenter des gestes sur le territoire français ou ça a vocation à. Il y a des partenariats internationaux pour être dans un.
Alors nous on fabrique les outils, on ne fabrique pas les récits qui vont avec. Enfin, en tout cas pas moi. Donc, le but, c'est effectivement, on est parti, les démarches sont parallèles et convergentes à certains endroits, complémentaires à d'autres. Là, en l'occurrence, le sujet que moi, je porte de manière plus active, pas uniquement en tant que témoin et en tant que coordinateur, c'est comment autonomiser, comment favoriser l'autodocumentation. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on crée des archives de savoir-faire. Et la posture qu'on adopte, c'est on n'imposera pas ça comme une injonction de façon verticale et descendante. Ça ne marchera pas, on ne va pas dire « toi, tu es obligé de le faire ». Par contre, si on donne des outils qui sont intelligemment conçus et qui permettent à chacun de le faire de manière spontanée, et que ces outils, on les rend, c'est un gros mot, interopérables, c'est-à-dire qu'ils peuvent communiquer ensemble, et on aura plus de facilité à les connecter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va créer un conservatoire, mais ça va être une bibliothèque vide. Il y aura un demi-fragment de geste dedans, quelques gestes, il y aura un fragment, même pas de geste, c'est un tout petit fragment de processus de transformation de la matière. C'est pas un métier, c'est pas une séquence, c'est rien du tout. Alors, si comparer une bibliothèque, c'est comme si tu rentrais à la BNF et que tu t'apercevais qu'il y avait 3 livres dedans. C'est un peu déceptif. Mais nous, on construit entre guillemets la BNF, on se la fait un peu. Nous, on construit la bibliothèque. Pas les livres qui vont, c'est pas nous qui rédigeons les livres qui vont
lire. C'est pas clair. En tout cas, si je peux rebondir sur les questions de documentation, est-ce qu'on le fait au niveau national avec Grégoire, dans Ressources, on le fait avec nos partenaires du projet en France, mais dans notre laboratoire, nous avons également des projets européens financés par la Commission européenne de recherche qui nous permettent d'appliquer des travaux similaires au niveau européen. Donc on collabore avec des artisans en Allemagne, en Italie, en Grèce, à Chypre, en Turquie. Et on a commencé cette démarche il y a plus de 10 ans, suite à la convention UNESCO, convention de 2003, dans laquelle
on définit la notion du patrimoine culturel intangible européen qui fait partie de l'identité culturelle européenne et qui nécessite également d'être préservé, documenté, transmis, etc. Et donc pour aller dans ce sens-là, on développe des méthodes, mais pas une bibliothèque, des méthodes qui permettent, en faisant appel aux technologies multisensorielles, d'aller capturer les procédés, les actions et les gestes au-delà de la capture vidéo. Parce que la capture vidéo, c'est ce qui se fait beaucoup dans l'état de l'art, et c'est très bien, mais c'est aussi une capture qui a des limites. On essaie un petit peu d'enrichir.
Et justement, par rapport au capteur, qu'est-ce que vous avez comme médium pour vraiment prendre en compte le corps en action, pour pouvoir mesurer tout ça? Je sais que par exemple, tout à l'heure, vous parliez quand vous avez évoqué le poids qu'on mettait sur un instrument, à travers une vidéo, parfois, on ne peut pas le voir. Est-ce qu'à travers les capteurs, on peut le ressentir, on peut le voir?
À travers une vidéo, justement, à cause des occlusions, des occultations, on va pas... La main va être cachée, elle peut être cachée derrière des objets, derrière la deuxième main, donc on ne va pas effectivement la voir. Mais par contre, si on fait porter un costume dans lequel il y a des capteurs intégrés, qu'on appelle les unités inertielles, qui nous permettent d'enregistrer les rotations des articulations dans l'espace, là on va être insensible aux occlusions et on va pouvoir enregistrer des données relativement fiables.
D'accord. Et donc vous avez la vidéo comme médium, vous avez les capteurs?
Oui. On a aussi les microphones, on récupère le signal audio.
Okay.
Et on commence doucement à travailler avec les capteurs de force.
Et qui sont les personnes, au final, qui sont jugées viables pour être enregistrées, pour être une bonne archive? Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce que, par exemple, quelqu'un de 10 ans, ça se trouve, enfin, il y a l'expérience de quelqu'un de 60 ans, comment vous réussissez à jauger, quelle est la bonne expérience?
Déjà, dans le projet, nous avons des partenaires. Et ensuite, les partenaires, en interne, ils vont décider qui est considéré expert. Très souvent, ce sont les formateurs. Les personnes qui enseignent et qui ont le réflexe de décomposer le geste dans leur subconscient quelque part pour l'enseigner. Et ça nous aide beaucoup quand on travaille avec eux.
Est-ce que ça veut dire que lui a déjà fait l'effort en fait de décomposer, de transmettre son geste pour après vous communiquer, c'est ça?
Oui, pour nous accompagner dans la captation.
Et puis vous faites aussi la captation des gestes apprenants?
Oui, on fait aussi, on commence à faire la captation des gestes apprenants. Identifier des différences entre experts et apprentis.
D'accord, donc les gestes instinctifs, on va dire, c'est ça? Des apprentis peut-être?
Oui, les apprentis sont en cours d'apprentissage, donc ils vont imiter leur maître. Leur maître va être présent ou pas, ça dépend de l'expérimentation, et on les laisse exécuter le processus à leur manière.
Peut-être tu peux nous dire comment intervient l'IA, parce que le capture, ce n'est pas une technologie qui nécessite l'IA, en tout cas.
Oui, pas directement. Alors, l'IA, elle intervient après. Une fois que nous avons récupéré les données, il y a une étape indispensable pendant laquelle on va les traiter, on va les nettoyer, parce que la donnée, elle est brute. Et elle nécessite d'être transformée dans des formats exploitables. Et ensuite, on fait appel à des techniques d'apprentissage machine, donc c'est ce qu'on appelle le machine learning, le deep learning, à différents types de méthodes qui ont chacune des caractéristiques pour aller chercher dans les données ce que toi, éventuellement, tu as fait aujourd'hui, répétabilité. Voilà. Donc nous, on va chercher des patterns, des leitmotifs, des choses qui se ressemblent dans différentes exécutions, dans les exécutions et les répétitions faites par une personne, faites par différentes personnes, faites par des experts, faites par des apprentis, le modèle va nous aider à identifier les similarités et les différences. Et à partir de là, à partir de cette capacité du modèle à non seulement comprendre de quel geste il s'agit, mais aussi comment il est exécuté, on va réfléchir dans notre recherche à la création d'outils qui peuvent accompagner la transmission des savoirs. Soit via la robotique, une robotique intelligente, entre guillemets, qui va s'adapter aux besoins de l'apprenti, à ce qu'elle est en mesure de comprendre le besoin, de l'identifier, soit par des systèmes interactifs de réalité augmentée, où on va activer un feedback, un système de notification. Mais bon, ça reste encore dans la sphère de la science abstraite. rendez-vous dans 3 ans et demi.
Et ce que je trouve intéressant, notamment dans la manière dont vous utilisez l'IA, c'est qu'elle casse un peu la priori qu'on a tous, parce que dans les médias, on voit globalement de l'IA générative appliquée à l'image. Et c'est un format, l'idée qu'on se fait de son application. En l'occurrence, l'image rentre assez peu en jeu dans votre sujet, même si je crois que vous avez un petit sujet sur la reconnaissance des outils.
On l'utilise, mais le fond de nos analyses, il se situe au niveau des séries temporelles, des données qu'on récupère avec les capteurs, des données biomécaniques, des données qui vont mathématiser le mouvement, le transformer en trajectoire, accélération, vitesse, en quantité. Et nous, l'IA nous aidera à quantifier.
Donc ça peut faire autre chose que des images étonnantes ou cheloues. Ça produit en fait de la computation à très haute fréquence entre guillemets. Et là moi je trouve que l'IA est vraiment intéressante, vraiment du point de vue de son utilisation dans les usages abstraits, pas concrets. C'est justement quand on ne lui demande pas d'être créatrice, c'est quand on lui demande de décupler nos capacités analytiques. Là, tout d'un coup, ça ouvre une case du cerveau qui est parfois difficile à solliciter sur des très grosses masses d'informations. Là, ce qui est votre cas, hein, là, on peut tout d'un coup déléguer une partie de cette analyse. Mais par contre, l'écriture du prompt, et tu m'arrêtes encore parce que tu dis des bêtises, ça nécessite de l'intelligence pas du tout artificielle. Parce que si on n'est pas capable de dénoncer clairement
on cherche à comprendre.
On n'y arrive pas. Ceux qui s'énoncent bien se pensent bien, ceux qui s'énoncent bien se promptent bien aussi. Donc on est vraiment. Je pense qu'il y a une valeur ajoutée aussi à la. Perspectives positives de cette utilisation de l'IA. Moi je pense que les historiens de l'art, les historiens du design, les historiens de la forme vont y trouver un outil exceptionnel. Parce que aujourd'hui, la verbalisation de l'intention redevient un outil de création d'une puissance phénoménale. Là où il y a des barrières, et c'est en ça que c'est intéressant d'entraîner ses propres IA, c'est que les datasets, les sets de données qui nourrissent les IA, elles sont biaisées, mais de façon totalement ahurissante. Ce qui fait que, moi j'ai fait l'exercice, je vous invite à faire la même chose, si vous utilisez votre vocabulaire métier et que vous demandez à une IA de vous produire une image fidèle, ne serait-ce qu'aux outils et aux matériaux, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir des aberrations au mieux drôles, au plus aberrantes, voire ridicules. D'un côté, il y a une prime à la culture des savoir-faire et la culture de l'histoire de l'art, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. D'autre côté, ça nécessite des bricoleurs géniaux, ou au moins des utilisateurs exigeants de la technologie pour se fabriquer un peu ses propres outils aussi et les adapter à son lexique, à sa méthodologie, etc.
Je pense que c'est le moment de conclure notre table ronde de notre journée en vous remerciant tous de l'avoir partagé avec vous.
Merci beaucoup.
La conversation sera disponible sous quelle forme?
Sur le site du PEPR, n'est-ce pas?
Oui.
Pendant cette conversation, du coup. Oui, n'hésitez pas à la diffuser, à la partager, à parler du PEPR autour de vous, de nos initiatives, à nous suivre sur les réseaux et via Ariane, parce que voilà, les journées vont continuer à être organisées. Et puis, la prochaine édition de notre journée, on va essayer de la faire porter sur la question des matériaux. Okay. Les matériaux qu'on va aborder, encore une fois, on va essayer de l'aborder via une approche transdisciplinaire, donc science des matériaux, mais aussi des questionnements sur l'écologie, l'environnement, le développement durable, l'économie. On vous invite à venir nous voir de nouveau.
Merci.
On fait une visite, c'est ça, pour ceux qui
veulent venir à tenir dans vos ateliers.
Oui,
si on peut commencer par les ateliers.
Oui, super, voilà.
Gracias.
c'est te voir, sans te voir, arriver là-dessus.
Si tu veux
aller
visiter les ateliers,
à
la
prochaine. Au revoir.
Il y a plein de choses.